tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Ce soir, nous allons parler de deux cas. Pourquoi? Eh bien, parce que le premier, les deux cas, en fait, sont assez minces, donc je préférais les rassembler en une seule capsule ou un seul épisode. Parce que sinon, ça serait très, très, très court. Donc, je vais essayer d'étirer et d'étirer et d'étirer. Non, quand même. Je vous ferai pas ça. Le premier cas se passait le 22 mai 1856. Cette journée-là, on a trouvé le corps d'un enfant de sexe féminin. Donc, on sait que c'était une petite fille. Et on l'a retrouvé dans le bassin d'un canal qui était situé près de la fonderie Dunbar à Montréal. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs ou des connaisseuses, des connaissantes en histoire de la ville de Montréal qui pourraient savoir dans quel coin était la fonderie Dunbar. Moi, j'en ai aucune idée. Probablement que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est ce qu'on sait de cette affaire-là. Évidemment, c'est un néonaticide. Je ne sais pas si vous avez... entendu parler de ce qu'était le néonaticide. On va y revenir plus en détail. À un moment donné, je ferai une balado uniquement là-dessus. Mais bref, grossièrement, le néonaticide, c'est le meurtre d'un enfant âgé de moins de 24 heures. Donc, dans les premières 24 heures de sa vie, un bébé qui est assassiné par sa mère. Dans 99% des cas, c'est la mère qui est l'assassin dans ces affaires-là. Donc, évidemment, si on l'avait su à cette époque-là, il aurait fallu rechercher une mère qui avait été victime d'un déni de grossesse, parce que c'est souvent le cas. La grossesse est cachée, souvent. Et puis, il y a un déni, là, dans le fond, tout ça. Et la plupart des cas, sinon la majorité, c'est des femmes âgées de 25 ans et moins. Donc, des jeunes femmes, des jeunes filles qui viennent d'un milieu aussi défavorisé pour la grande majorité. Ce qu'on sait, on ne sait vraiment pas grand-chose, mais l'enfant, quand on l'a trouvé, était complètement nu et paraissait être âgé de 3 ou 4 jours. Je l'ai quand même mis comme néonaticide parce que c'est quand même une évaluation comme du coup-ci, coup-ça. Et on l'avait jeté dans le canal on espérait probablement qu'elle soit emportée par la rivière. J'ai mis à cette affaire-là dans la chronique, là. Pas la chronique, mais la rubrique dans mon dictionnaire, qu'il y a deux scènes de crime dans ça, donc probablement que l'enfant a été assassiné et ensuite jeté. Donc il y a comme deux endroits. Il y a l'endroit de la découverte et l'endroit du crime. Donc il y en a un des deux, évidemment, qu'on ne sait pas. Alors, on ne l'a jamais trouvé. Et évidemment, les enquêtes de cette époque-là, c'est pouvaient pas faire grand-chose de plus. Ce n'est pas de les blâmer, mais c'était comme ça. Retrouver le cadavre d'un bébé à cette époque-là, en 1856, il n'y avait pas grand moyen de remonter à la mère, à moins d'avoir eu des témoins ou autres indices tangibles comme ça. Mais bon, bref, c'est tout ce que je peux dire sur cette affaire-là. Cette pauvre petite fille n'a jamais eu de nom, elle n'a jamais eu le temps d'être baptisée, fort probablement. Hein? Voilà. Comme c'était la coutume à cette époque-là. Donc, son crime n'a jamais été résolu, malheureusement. Ça vaut quand même, même si on n'a pas grand-chose à dire sur un dossier comme ça, je pense que ça vaut la peine. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, faut quand même en parler. Faut quand même les faire revivre, ces dossiers-là. Sinon, qui le fera? Faut quand même savoir que ça se faisait aussi. Et peut-être même plus qu'on pense, parce qu'à un moment donné, à force de répertorier mes homicides, certaines époques, quand j'avançais dans les années, le néonaticide représentait entre 10 et 15% de tous les homicides en général. Fait que c'est assez impressionnant. Moi, à un moment donné, c'est une des choses que j'ai remarqué le plus en travaillant sur cette recherche-là. C'est ce qui m'a frappé en premier. Je pensais jamais qu'il y en aurait autant. Et à une certaine époque, au cours du 20e siècle, ça diminue le pourcentage, mais j'ai l'impression que ce pourcentage-là diminue, premièrement, parce que ma recherche n'est pas terminée, et deuxièmement, parce qu'on les... On en a parlé moins, je pense. On ne cherchait pas nécessairement à les cacher, mais on en parlait beaucoup moins. Et c'est ce que le docteur Labbé, d'ailleurs, a dit dans les années 90, avec qui j'ai déjà discuté brièvement, qui était spécialiste, il a passé plus de 40 ans, il est à sa retraite maintenant. Il a pas... C'est un spécialiste des enfants maltraités, même auprès de la Sûreté du Québec. Et c'est ce qu'il disait, lui, en 1990, je pense que c'est 1994, dans un article de journal, je le retrouverai, je vous dirai ça, que justement, on n'en parlait pas de tous les cas, parce que si on les répertoriait tous, des fois, on les cache sous d'autres diagnostics ou d'autres verdicts de coroner, si on veut, mais il y en aurait plus que ça. Et ça vient chercher un peu le résultat de mes recherches. Comme je vous disais, à certaines époques, là, j'atteignais quasiment entre 10 et 15 %. Là, donc, c'est assez... c'est pas réconfortant, disons. Donc, le deuxième crime non résolu de ce soir s'est passé quelques mois plus tard. Donc, on parle de juillet 1856. Cette fois-ci, ça va se passer en Estrie, à Pike River, le 6 juillet. Et cette fois-ci, c'est un homicide argumentatif. Même si on a des affaires non résolues, des fois, on a assez d'éléments pour savoir quel type de crime que c'est. Quand je dis crime, évidemment, vous aurez compris, là, je l'utilise pour ne pas utiliser tout le temps homicide. Mais je ne parlerai pas de viol puis de vol à l'étalage ici dans la série. Là. C'est quand je dis crime, normalement, c'est synonyme d'homicide ou de meurtre. Alors, la victime... s'appelait Andrew Weatherwax, rien de moins. Bon, ça se passe dans une taverne de Pike River. Après avoir bu quelques verres, Andrew et John German Weatherwax ont abordé un sujet relatif à l'argent. Donc, moi, quand j'étais petit, j'entendais les plus vieux dire les sujets qu'il faut éviter pour ne pas avoir de chicane, c'est la politique et l'argent. Et gars, vois-tu? C'est vrai? Donc, ça va mener... ils se sont mis à parler d'argent, puis là, ben, paf, la bagarre a éclaté. Et on dit que John Weatherwax aurait demandé à Andrew de lui payer à boire. Donc, c'est à partir de là. Mais les deux hommes se sont rapidement retrouvés dehors. Donc, allez régler vos cas, vos affaires dehors, les messieurs. Et petit détail que j'ai oublié de dire, c'est que les deux, vous aurez remarqué qu'ils ont le même nom de famille, hein, c'est des Weatherwax, et c'est des cousins, donc c'était pas des frères, mais des cousins. Et là, on se retrouve à l'extérieur, on veut s'expliquer, bing, bang, il fait noir, ça va pas bien. Un instant plus tard, ben, au moment de sortir de la taverne, il y a un témoin, lui, qui a vu que la victime se traînait le long du mur. Ah oui? Ah oui, oui. Tandis que l'accusé s'élançait pour le frapper à nouveau. Donc, il n'a pas vu la première portion de la bagarre, si on veut. Mais lui, quand il sort, il en voit un qui se traîne le long du mur, puis que ça va pas bien. Et puis, là, il voit l'autre en train de se préparer pour y en donner un autre. Et le témoin a alors dit à John de reculer. Donc, il s'est interposé pour dire « Hey, wow, c'est assez ». Et qu'il devrait avoir honte de s'en être pris à son cousin. Il a même dit, hein? Il a fait la morale ce soir-là. Donc, Andrew Weatherwax a reçu combien de coups? On ne sait pas. Peut-être un seul. C'est des choses qui arrivent entre. Dans les. On va le voir plus tard, peut-être pas dans les cas non élucidés, là. Mais dans la catégorie des homicides argumentatifs, donc c'est des petites bagarres, des fois il suffit d'un seul coup de poing. Et c'est la chute après, souvent, qui provoque le décès, donc commotion ici et ça, bref. Et ici, ce qu'on sait, bon, on ne sait pas combien de coups il a reçu, mais il est décédé de ses blessures. Et cela, ça a eu comme conséquence, évidemment, qu'en octobre 1857, il y a eu son procès, John, son fameux cousin John, Germain, il y a eu son procès, mais il a été acquitté. Alors, est-ce que ça se pourrait que ce soit pas lui? On l'a quand même vu s'élancer, prêt à y en donner une. Mais voilà, je l'ai quand même laissé dans la catégorie non élucidée parce que je pense que ça méritait d'avoir une justice dans ça, puis il n'y en a pas eu. Est-ce qu'on a manqué de preuves? Est-ce qu'il a prétendu s'être défendu? Si on n'a pas les détails, malheureusement, là, et quand je vous dis des fois qu'on manque de détails, c'est malheureux, mais là, on avance tranquillement, puis plus ça va aller, on va avoir plus de détails, je vous le promets, avec la publication. Par exemple, là, à la fin du 19e siècle, les journaux commencent à être plus à vouloir détailler un peu plus les crimes, les homicides et tout ça. Comme la presse, l'apparition de la presse, par exemple, Le Soleil, Le Nouvelliste qui arrive plus tard pour la Mauricie, là, en 1920. C'est quand même des journaux qui prennent ces choses-là au sérieux. Et avec une certaine crédibilité aussi, parce qu'on va voir qu'il y a des journaux, c'est pas moi qui le dis, qu'il y a des journaux qui vont apparaître beaucoup plus tard, à Sensation, par exemple, qui vont se spécialiser, oui, dans le crime, si on veut, mais avec une crédibilité moindre. Mais bref, on va voir plus de détails. Et quand je dis les journaux, ben c'est une source quand même importante là, pour les balados. Mais dans certains cas, on va voir aussi que il y a de la matière intéressante que j'ai obtenue directement dans les dossiers judiciaires ou les enquêtes de coroner. Ben, c'est d'ailleurs le cas de certains dossiers qu'on a vus ensemble, là, que j'ai consultés et que je vous ai partagé le contenu des enquêtes de coroner. Et ça continue encore et encore, pour ne pas dire comme la vieille chanson. Alors, sur ce, ben, bonne enquête!